Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. L'histoire de l'humanité regorge de grands récits mythiques où s'entretuent de légendaires frères ennemis. Caïn et Abel ou Jacob et Ésaü dans la Bible. Osiris et Seth dans l'Égypte ancienne. Étéocle et Polynis dans la mythologie grecque ou encore Romulus et Rémus dans la mythologie romaine. Ces mythes et légendes ne font hélas que retranscrire une réalité d'une grande banalité. Dans une vie de famille, les rivalités entre frères et sœurs sont fréquentes, douloureuses et parfois aussi impitoyables. Ainsi que l'écrivait Charles Chincholl, secrétaire d'Alexandre Dumas, qui en connaissait un rayon en ressort romanesque.
Que tous les hommes soient frères, c'est le rêve des gens qui n'ont pas de frères.
Or donc, dans ce nouveau récit en deux parties, place à Gaston, frère cadet du roi Louis XIII, qui sa vie durant se refusa à vivre dans l'ombre de son aîné, et rêva d'être roi de France. Seconde partie, le triomphe de Richelieu. Lors de la journée des dupes, le 10 novembre 1630, Louis XIII choisit Richelieu, son ministre, contre sa mère. Non seulement il le confirme dans ses fonctions, mais il le fait duc et pair du royaume, tandis que Marie de Médicis est priée de partir pour Compiègne. La mère du roi quitte définitivement la scène politique. Elle part pour les Pays-Bas espagnols et ne reverra jamais son fils. Cela ne l'empêchera pas de continuer à comploter contre lui. Au lendemain de la journée des dupes, de nombreux opposants sont emprisonnés ou partent en exil. Gaston prend aussitôt le relais des fauteurs de troubles. Entre 1631 et 1642, on va le retrouver dans toutes les intrigues et tous les complots dirigés contre Richelieu et par conséquent contre le roi. Il quitte Paris pour la Bourgogne, puis à nouveau pour la Lorraine. Le peuple soutient ce prince remuant et fuyard, car il déteste Richelieu qui l'accable d'impôts. Pour Louis XIII, que son trublion de frères soit en Lorraine constitue une menace. Quid de leur touchante réconciliation d'avril 1630 ? Une année à peine s'est écoulée depuis. Et voilà que depuis Nancy, Gaston rédige et adresse à son frère un manifeste politique anti-Richelieu. Il s'y présente en chef de l'opposition au cardinal, qu'il traite
de prêtre inhumain et pervers, pour ne pas dire scélérat et impie, qui a introduit dans le ministère la cruauté, la perfidie et la violence.
Il lui reproche son attitude envers la reine-mère, en lui rappelant que c'est à elle qu'il doit sa carrière. Il se pose aussi en défenseur des pauvres, dont il a vu la misère en arpentant le royaume en tous sens, et dénonce l'exercice du pouvoir tyrannique de Richelieu. Depuis la Lorraine, où il pétitionne et conspire, Gaston prépare son prochain coup. D'abord, il annonce son intention d'épouser la sœur de Charles IV, duc de Lorraine. Non par calcul d'ailleurs, mais tout simplement parce qu'il en est amoureux. Or, il est inconcevable pour un prince de se marier sans l'autorisation du roi. Qu'importe, ce mariage est un défi, un acte de liberté et de révolte contre son frère et contre Richelieu. Sous l'impulsion de Gaston, la Lorraine devient bientôt le cœur de la conspiration anti-Richelieu. Monsieur cherche à s'assurer le concours d'autres provinces, après quoi on obligera le roi à sacrifier son ministre, à moins que Louis XIII, devant la réprobation générale, n'accepte de s'effacer ou de disparaître, ce qui donnerait enfin la couronne à Gaston. Le remuant frérot et ses complices frondeurs vont passer un an à se compter et à monter une nouvelle tentative de renversement de Richelieu. Mais plus le cardinal est controversé, plus Louis XIII le comble de privilèges et d'argent. Irrité par cette agitation à ses frontières, Louis XIII saisit le prétexte de la rébellion de Gaston et de son mariage contracté sans son autorisation pour aller châtier la Lorraine. En décembre 1631, les troupes françaises pénètrent en Lorraine et prennent la forteresse de Moyenvic. Le duc de Lorraine doit s'incliner. La Lorraine est mise au pas. Le traité de Vic du 6 janvier 1632, signé trois jours après le mariage de Gaston, permet à Louis XIII de faire établir une garnison permanente en Lorraine. Il sera suivi du traité de Liverdun, au terme duquel Charles IV est contraint de rendre hommage à Louis XIII et de l'autoriser à traverser la Lorraine comme bon lui semblera. Ah, décidément, voilà un nouveau beau-frère qui lui coûte cher. Bon, où en sommes-nous ? Conspiration de Chalais, fuite en Lorraine, réconciliation, journée des dupes, refuite en Lorraine. Et maintenant, fuite aux Pays-Bas espagnols, d'où Gaston prépare son prochain soulèvement général. Il lui faut trouver des hommes, convaincre les nobles opposés à Richelieu de le suivre. Pour financer son prochain coup de force, sa noble mère, Marie de Médicis, met ses bijoux en gage. Situation familiale extraordinaire s'il en fut. La reine-mère, exilée à Bruxelles, finance avec ses bijoux la guerre que son fils cadet mène à son fils aîné. C'est du joli. Pour l'heure, notre conspirateur impénitent doit impérativement rallier à sa cause l'un des plus grands seigneurs du moment, Henri de Montmorency, le petit-fils du connétable Anne de Montmorency, grand ami de François Ier et d'Henri II. Passionnément épris de liberté, celui-ci se laisse tenter par l'offre de ralliement de Gaston. C'est donc maintenant l'un des plus grands seigneurs de France, le duc de Montmorency, maréchal de France, filleul d'Henri IV, que Gaston convainc de se soulever contre le roi. Le 22 juillet 1632, les États du Languedoc font sécession du royaume de France. Le représentant du roi y est arrêté. Le Languedoc, ayant été privé par Richelieu du droit de prélever les impôts, le soulèvement de Gaston et de Montmorency y est plutôt populaire et seules quelques villes, Toulouse, Carcassonne et Narbonne, restent fidèles au roi et refusent d'accueillir les insurgés. Cette fois, Louis XIII fait le déplacement en personne pour punir les révoltés. La bataille a lieu le 1er septembre 1632 devant Castelnaudary et ne dure guère plus d'une demi-heure. Les forces en présence sont assez modestes, 2500 soldats côté Louis XIII et 1500 hommes côté rebelles. Montmorency est blessé et arrêté, tandis qu'Antoine de Moret, demi-frère de Louis XIII, fils de Jacqueline de Bueil, qui se battait dans le camp de Gaston, est mortellement blessé par une balle de mousquet. Il expire dans le carrosse de son demi-frère. Condamné à mort pour crime de lèse-majesté, Montmorency sera exécuté à Toulouse le 30 octobre 1632. Sa mort est l'affirmation éclatante d'un pouvoir royal tout-puissant qui entend bien dompter la noblesse. Encore une entreprise de Gaston qui s'achève dans la débâcle. Mais cette fois, monsieur est un peu échaudé. Constatant que son frère n'a pas hésité à faire exécuter une pointure comme Montmorency, il craint pour sa propre vie et part se réfugier aux Pays-Bas. Il y passe 2 ans pendant lesquels il fait réaffirmer son mariage publiquement par l'archevêque de Molines et continue à prendre des contacts dans toute l'Europe. En 1633, il perd sa principale protectrice sur place, l'archiduchesse Isabelle. Du coup, privé d'appui, il négocie son retour en France. Il déclare
« L'expérience m'a appris qu'il ne faut jamais être contre le roi. »
Gaston aurait-il pris un peu de plomb dans la cervelle ? Toujours est-il que les deux frères se retrouvent après avoir réussi à s'accorder autour des histoires de mariage, de pension, de règlement des dettes de Gaston. Ils se revoient le 21 octobre 1634, re-émotion sincère, re-excuse de Gaston. Son frère lui redéclare
« Je vous ai pardonné. Ne parlons plus du passé, mais de la joie que je ressens très grande de vous revoir ici. »
Gaston, lui aussi, est ravi, car après 4 ans d'exil, il commençait à en avoir assez d'aller et venir et aspirait au repos. Le 11 novembre, il arrive à Blois, mais sa trop facile altesse, comme le surnommait Richelieu, n'allait pas rester longtemps en place. Louis XIII a beau avoir soi-disant pardonné, il n'a pas digéré le coup du mariage de son frère et l'annulation de ce mariage tourne à l'obsession. Le 14 février 1635, il fait arrêter tous les favoris de Gaston, à commencer par Antoine de Lage, sieur de Puylaurens, qui depuis des années conseillait Gaston dans ses intrigues contre Richelieu. Puylaurens va payer son incapacité à convaincre Gaston de se démarier, de sa liberté et bientôt de sa vie, puisqu'il mourra en prison en juillet de la même année. Gaston se retrouve en liberté surveillée. Le chancelier et surintendant qui remplace Puylaurens auprès de lui est un homme du cardinal. Isolé, meurtri. Il accepte de signer un acte de démariage qui n'a d'ailleurs aucune valeur, Richelieu le sait très bien, car il est obtenu sous la contrainte. C'est alors que les troupes espagnoles franchissent la frontière du royaume de France, envahissant bientôt la Picardie. Face aux revirements, réconciliations, conspirations, fuites et autres entourloupes de Gaston, on ne peut s'empêcher d'éprouver une certaine lassitude. En tout cas, on comprend mieux pourquoi Alexandre Dumas se prit de passion pour les mousquetaires sous le règne de Louis XIII. Un règne sur fond de cavalcades et de complots. Ah, du pain béni pour un romancier. En 1636, donc, bien décidé à déferler sur Paris, les Espagnols ont envahi la Picardie et les paysans se soulèvent en Guyenne. Le royaume de France est gravement menacé. Richelieu comprend que ça n'est pas le moment de pousser Gaston à bout, alors qu'il a dans la France entière des opposants qui ne demanderont qu'à se placer derrière sa bannière. La grande crainte du cardinal, c'est surtout que Gaston ne soit instrumentalisé par les Espagnols. Il se trompe. Car si Gaston le haïssait, lui, il aimait son pays et ne l'aurait jamais trahi. En participant à la guerre ouverte contre la maison de Habsbourg, donc contre l'Espagne et l'Autriche, Gaston gagne de ne plus être persécuté comme il l'était depuis son retour d'exil. À l'automne 1636, comme lieutenant général des armées de Picardie, il assiège la ville de Corbie durant 6 semaines. C'est lui qui finira d'ailleurs par obtenir la capitulation des Espagnols, mais c'est Richelieu qui en recueillera tous les lauriers. 1636, année de la victoire française et du consensus entre nos frères ennemis ? Oh, que non ! Il ne serait pas dit que 1636 n'aurait pas sa petite conspiration. Cette année-là, elle s'appelle Complot d'Amiens. Il s'agit une nouvelle fois d'assassiner Richelieu. Le cardinal échappera à la mort de justesse grâce aux tergiversations de Gaston qui devait donner le signal mais se défile à la dernière minute. Conspirateur, oui. Assassin, non. Dans la fastidieuse opposition des deux frères, un événement surgit qui devrait tout changer. Il s'agit de la naissance de Louis Dieudonné, futur Louis XIV, en 1638. Enfin ! Après 23 ans d'attente et plusieurs fausses couches, Anne d'Autriche donne naissance à un héritier. Voilà donc notre Gaston relégué à la deuxième place dans l'ordre de la succession. Va-t-il se calmer pour autant ? Eh non, que nenni ! Le complot qui se prépare sera retentissant. Il a pour nom « Conspiration de 5 mars ». Du nom d'un favori et sans doute amant de Louis XIII. Ce sera l'ultime complot de Gaston contre son frère et le cardinal. Pourquoi le dernier ? Eh bien, le combat cessera tout naturellement faute de combattants, puisque Richelieu, dont la France entière souhaitait la disparition, mourra de sa belle mort dans l'allégresse générale le 4 décembre 1632. Une fois encore, cette conspiration de mars 1642 visait à faire de Gaston le lieutenant général du royaume. Comme d'habitude, le complot était vanté, le lampiste exécuté. Gaston de France est laissé hors de cause. Mais le Parlement de Paris enregistre une déclaration le privant de ses droits à la régence. Le 8 février 1643, les deux frères se réconcilient, ainsi qu'ils l'ont toujours fait après le dernier complot en date. Mais quelle valeur accorder à cette énième réconciliation ? 6 mois après Richelieu, c'est maintenant Louis XIII qui est à l'article de la mort. Le 6 mai, il accepte enfin, par un acte officiel, le mariage de Gaston avec la duchesse de Lorraine. Sur son lit de mort, écrit Nicolas Goulas, un contemporain,
« Monsieur versa 1000 larmes en voyant le roi si bas. La reine n'en fit pas moins, mais le roi n'en eut pas plus de tendresse, ni pour l'un, ni pour l'autre. »
L'heure n'est plus à la comédie des réconciliations. Avant sa mort, Louis XIII nomme Gaston gouverneur et lieutenant général du royaume et chef des conseils sous l'autorité de la reine pendant la minorité de Louis XIV. Enfin, ça valait la peine d'attendre. Mais enfin, tous ces complots, tous ces morts et tous ces déplacements pour en arriver là. Devenu chef de l'armée, Gaston mènera contre les Espagnols une campagne victorieuse qui apportera à la France toute une partie du comté de Flandre. Mais c'est plus fort que lui, le démon de l'intrigue le démange et il repart de plus belle dans la fronde contre le pouvoir royal. Cette fois, c'est Mazarin qui le fait exiler dans son château de Blois. Après avoir tant d'années sillonné le royaume de France, Gaston passera à Blois les 8 années qu'il lui reste à vivre, entouré de ses riches collections d'œuvres d'art, de miniatures et de médailles, de cartes géographiques et de toute une ménagerie de bestioles bruyantes. D'aucuns ont pu écrire qu'à sa mort,
personne à la cour de France ne pleura beaucoup, cet insupportable enfant vieilli.
Dans sa biographie de Louis XIV, Jean-Christian Petit-Fils enchérit en écrivant
« Gaston d'Orléans, ce prince léger, veule, chimérique, velléitaire, enragé fauteur de troubles, conspirateur impénitent, qui achetait son pardon en se faisant le délateur de ses amis et partisans. Lui sur le trône, c'en était fini de l'œuvre de redressement opiniâtrement menée par Richelieu. »
Voici notre homme habillé pour l'hiver. Et pourtant, nous l'aimons bien, ce foutraque de Gaston, épris de liberté et de justice. Ah, s'il avait régné, au lieu de quoi, le royaume de France allait hériter avec Louis XIV du souverain le plus absolutiste de toute l'histoire de la monarchie française. D'ailleurs, c'est Louis XIV qui fit interdire la publication de l'oraison funèbre de Gaston, où son oncle était présenté comme médiateur entre le roi et ses sujets et attaché à la liberté du peuple. La liberté du peuple ? Et puis quoi encore ? Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Xavier Joly. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau récit au cœur de l'histoire.